Radio 3D.
La France a bien du mal à trouver une solution à ce problème.
À partir de vendredi prochain, les choses vont sûrement changer.
Attendez une minute là.
Bonjour à vous. Un autre monde possible, le rendez-vous mensuel d'Attaque Pays d'Arles, tous les premiers mercredis de chaque mois de 18h10 à 18h40 sur 3DFM. Un autre monde possible, c'est possible.
Moins 04 58 96 71 72 13 45 04 Deutsche Bank 22.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de 3DFM pour notre émission mensuelle d'Attaque Pays d'Arles avec nous aujourd'hui Laurane. Bonjour Laurane.
Bonjour Sylvie. Bonjour à tous.
Alors, décembre, c'est la fête, c'est Noël, c'est les joujoux par milliers, ouais. Alors la seule question que l'on se pose et qui doit tarauder nos auditeurs, c'est mais y aura-t-il de la neige à Noël, enfin, quoi ? Mais comme on réfléchit beaucoup à Attaque Pays d'Arles, nous avons décidé de répondre très sérieusement à cette question. C'est pourquoi cette émission parlera de neige, à l'aune du réchauffement climatique, et de Noël, moment de surconsommation conviviale en pleine crise d'eau. Austérité. Commençons par Noël.
Bah oui Sylvie, on a beau nous dire que c'est la crise et qu'il faut se serrer la ceinture, Noël c'est quand même la fête de la dinde au marron et des cadeaux sous le sapin en plastique.
C'est vrai, ça fait un moment déjà que ce n'est plus la fête religieuse qui prédomine dans les pratiques. La messe de minuit a toujours ses fidèles et la crèche toujours la cote, hein, surtout en Provence avec nos beaux santons de qualité. Mais pour la majorité, c'est avant tout une fête familiale avec multiplication de grands plats et débauche de cadeaux pour les enfants. Comme il y a du relâchement, on observe aussi une hausse des pratiques plus égocentrées avec un engouement particulier pour les séjours ski ou les destinations exotiques. Quelque part, si on ne peut que se réjouir d'avoir ici l'occasion de faire la fête, celle-ci manque un peu d'unité de sens. La fête est à la fois religieuse, familiale, de consommation, un jour férié comme les autres.
Il faudrait aussi évoquer les gens qui aimeraient bien fêter Noël mais ne le peuvent pas. Et tous ceux qui pourraient fêter Noël mais ne le veulent pas.
Oui, ouais. Mais finalement, ils se rejoignent dans une symétrie quasi parfaite. Hein. D'un côté, ceux qui voudraient bien se réunir en famille ou avec quelqu'un, peu importe qui, pour partager un moment de bonheur, représentent l'exact opposé de ceux que ces réunions emmerdent prodigieusement et qu'ils fuient comme la peste. D'un autre côté, ceux qui voudraient participer à la folie dépensière, foie gras et PlayStation pour tout le monde, rêvent totalement à l'inverse de ceux que la profusion de bidules inutiles et de surconsommation rend malade. Il faut avouer que la déco de Noël, hein, avec son côté kitsch post-disneyen, a de quoi donner des nausées.
Oui, enfin, je peux pas te laisser dire ça, d'autant plus que tu l'as évoqué tout à l'heure, on est quand même au pays des santons, et qu'il n'y a rien d'horrible à décorer un beau sapin, à accrocher une couronne de houx à sa porte, à suspendre des guirlandes au salon.
Oui, ouais, ouais, mais je pensais plutôt au merveilleux, tu sais, le Père Noël en plastique gonflable, là, celui qui est suspendu au balcon, à la magnifique scénographie de genre, là, illuminant le jardin, à l'ensemble hétéroclite de trucs clinquants et clignotants qui, allez, à défaut de donner un sentiment de bonheur et de quiétude, vrille les yeux et te perfore les tympans. Mais enfin, pour en revenir à la quête de sens de tout à l'heure, on est bien ici dans quelque chose d'indescriptible, pas qu'au niveau de la vue. Hein. Le sens religieux ou le sens traditionnel, ils sont suffisamment porteurs en eux-mêmes pour qu'il n'y ait rien d'autre à décrypter, on va dire. Par contre, les pratiques qui y sont liées répondent à une logique exprimée assez logique, on va dire, avec toutes les déclinaisons traditionnelles locales. On peut avoir, la Saint-Nicolas au nord, les 13 desserts de par chez nous. Le sens des fêtes profanes est plus difficile à appréhender puisqu'il découle d'une triple appartenance, notamment ses dérivés des Saturnales de la Rome antique. Et c'est religieux et puis maintenant c'est purement commercial. C'est ce dernier point qui domine, d'où le fourre-tout qu'on observe sur la table familiale de la tante Agathe, mais aussi dans le jardin du voisin.
Ouais. Est-ce que tu ne pourrais pas être un peu plus explicite ? Il est tout à fait normal et sain que des fêtes se modernisent, qu'elles se mettent à la page. Le reste n'est qu'une histoire de goût.
Ben non, justement, c'est pas une histoire de goût. Tu vois, à partir du moment où la fête devient commerciale, c'est uniquement et purement une histoire d'argent. Noël n'est qu'un produit dérivé de plus à ajouter à l'hôte du grand commerce mondialisé. Alors, je m'explique, hein. Dans l'historique de la fête de Noël, que ce soit d'origine religieuse ou païenne, hein, il s'agit surtout d'honorer le principe de communion. Une communion autour de la table, lors du fameux repas de Noël. Voilà, ça répond tout à fait au principe. Par contre, ce qu'il y a sur la table, ça dépend de logiques d'achat qui sont totalement déconnectées. C'est pareil pour le principe du don et de l'échange. Les cadeaux de Noël, ça répond parfaitement au principe du don, mais pas ce qu'il y a dans les paquets. Et le décalage est tel que le principe du don est maintenant totalement dévoyé, hein. Et ainsi de suite, pour tout ce qui a un rapport, bon, de près ou de loin, voire de très loin avec Noël. S'ajoute ensuite une série de nouveautés qui ne correspondent à rien. Séjour au ski, croisière, thalasso. Bon, là, le produit d'appel, il est évident tellement ça semble déconnecté du reste. Mais c'est exactement pareil pour les repas ou les cadeaux de Noël. Par exemple, s'il était rentable de vendre des courgettes à cette période, on te vendrait la courgette de Noël en te baratinant sur son luxe incomparable.
Oui, d'accord. On peut pas nier que la fête soit commerciale. Malgré tout, on a le choix de ne pas acheter n'importe quoi, de ne pas entrer dans le jeu de la consommation.
Oula, le crois-tu ? Est-ce que tu peux manger des nouilles à Noël alors que tu es totalement libre de cuisiner ce que tu veux ? Peux-tu offrir à tes enfants des cadeaux représentant moins de 10%, 20% de ton salaire sans passer pour un pingre ? Peux-tu, par exemple, ne rien faire à Noël sans avoir à te justifier ?
Ben, je suppose que non, ou alors ça va être très dur. J'aurais l'impression d'imposer mes choix aux autres, d'être en dehors de la fête.
Et oui, et pour autant, t'imposes rien du tout, hein. Elle est là, la force du commerce mondialisé. Non seulement on te refourgue tout un tas de consommables estampillés Noël et prétendument choisis, alors que tes choix, ils sont finalement très limités, mais en plus, on te donne mauvaise conscience si tu n'y souscris pas. Comme ce commerce est mondial, on va exporter Noël ailleurs, au Japon, par exemple, hein, où ils fêtent depuis peu le Meri Kurismusu. Ouais, bon, c'est dur à dire en japonais, mais yo-yo Noël, ça devait être dur, donc autant prendre l'anglais. Hein. Et on va importer chez nous de la déco, des plats et surtout des jouets hein, qui sont principalement fabriqués en Chine, souvent par des enfants. D'où le saumon fumé typique du repas de Noël, les crackers en fin de repas et la Nintendo sous le sapin provençal. Donc un fourre-tout commercial aussi beau qu'un rayon de supermarché.
On est un peu piégé du coup. On peut fabriquer une partie des cadeaux nous-mêmes, faire attention à ce qu'on mange, que ce soit de saison et local. On peut certainement créer notre propre déco, etc. Mais ça fait beaucoup de choses à penser d'un coup.
Oui, bof, si tu veux, je crois que le plus simple, c'est quand même de redonner du sens à tout ça. Hein. Tu fermes les yeux un moment, tu respires, tu te demandes pourquoi tu souhaites fêter Noël. Puis le reste découlera de source, je pense. Puis, par exemple, si c'est uniquement pour recevoir des cadeaux, tiens, je t'offre cette chanson d'amour.
Chez moi une telle habitude, si je n'étais pas si secret, si avant de parler, cette fois ma langue n'allait rotative, si je ne comptais pas mes doigts pour éviter toute dérive, si chez moi les bonnes manières n'étaient pas si envahissantes, je les écraserais par terre avec une force ahurissante. Si je n'accrochais à mes tempes deux impeccables favoris, si je n'éteignais pas la lampe lorsque j'ôte mes dessous gris, si je ne rougissais pas tant, si je frémissais un peu moins, si par plaisir de temps en temps je m'accordais un petit joint, si ma vie était moins parfaite, si j'avais le goût du danger, si je savais faire la fête et juste un soir te déranger, si j'acceptais de prendre part aux discussions grâce et salace, pour moi aussi avoir ma part du gâteau leur. Dégueulasse, si j'arrivais de ma campagne avec mes gros sabots merdeux, si je me baladais en pagne avec des airs libidineux, si je te regardais de haut, si je te prenais par derrière, si j'atteignais les idéaux de ceux qui cassent les barrières, si je n'avais plus peur de rien, si je ne craignais plus personne, je pourrais te dire allez viens, je t'emmène en Sierra Leone avec classe et virilité, je décrocherais du plafond la bajoure couleur voie lactée pour te l'offrir. Avec des si, on peut aller très loin sans que je me retrouve à sec. Je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, je ne fais rien, mais alors rien. Ce qui s'appelle rien.
Si vous me le permettez, pour introduire cette deuxième partie, je vais emprunter la devinette qui clôture habituellement l'émission. Donc, qui a dit ? Le défi climatique n'est pas un défi pour les 10 prochaines années, c'est un défi pour le siècle. Et merci aux lecteurs du Canard Enchaîné de ne pas souffler la réponse.
Je sais pas, Ségolène Royal ?
Non, je vais te dire, c'est François Hollande. Alors, en contexte, la France accueillera la conférence sur le climat en décembre 2015. Son nom complet, c'est donc « Conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ». Ouais, c'est un peu long, et comme c'est la 21e conférence du genre, on l'appelle en abrégé COP21. La France en a obtenu l'organisation lors de la COP19 de Varsovie en 2013, dont peu de monde a entendu parler. Et cette année, la COP20 se tient à Lima, au Pérou.
Oui, elle se déroule en ce moment même, non ?
En effet, du 1er au 12 décembre.
D'abord, pourrais-tu nous expliquer de quoi sont issues ces conférences ?
Oui, alors c'est un peu compliqué. Les conférences sur le climat sont nées du calendrier de rencontres issues de la conférence de Kyoto en 1997, elle-même issue de la conférence de Rio de 1992. Cela concerne tous les pays faisant partie de l'ONU, mais qui se sont engagés dans les conférences climat. Tu suis ? Oui. Alors, à Kyoto, la conférence était achevée par la signature d'un protocole qui engageait les pays industrialisés à réduire globalement leurs émissions de gaz à effet de serre de 5% par rapport au seuil de 1990, et ce, avant 2012. Alors cet accord signé a très rapidement été dénoncé par George Bush pour les États-Unis en 2000, puis l'Union européenne a émis des doutes sur ses capacités à atteindre les objectifs fixés. Finalement, l'accord de 97 n'est entré officiellement en vigueur qu'en 2005 après ratification du traité par la Russie.
Ah oui, d'accord. Signé en 97, ratifié en 2005 et qui concerne les objectifs de 2012. Mais alors 2012, c'était il y a 2 ans. Hein. Les objectifs sont atteints ?
On va dire que les résultats sont pas très concluants. Le Canada s'est finalement retiré des accords en 2011. Il faut dire qu'au lieu de moins 5%, ils en sont à plus 20% d'émissions de gaz à effet de serre. L'Union européenne a bien annoncé une baisse de 4,9% de ses émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est un leurre. Vivi, ce qu'on a surtout vu apparaître après Kyoto, c'est le mécanisme de compensation financière, le marché du CO2, le marché carbone. Les pays les plus polluants achètent aux pays les plus vertueux, et les plus pauvres souvent, des droits à polluer, un moyen plutôt malhonnête de respecter les quotas. Il faut également noter que le transport aérien n'était pas dans les calculs, hein, officiellement trop compliqué à prendre en compte. Au niveau mondial, donc, les émissions de CO2 ont augmenté de 45% entre 1990 et 2010, selon l'Agence internationale de l'énergie. Les émissions de CO2 devraient encore augmenter de 130% entre 2008 et 2050. Alors aujourd'hui, on atteint régulièrement des pics de pollution de 400 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. C'est un seuil qui avait été jugé critique il y a quelques années par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui publie donc chaque année un rapport. Son 5e rapport est précis et très alarmant.
Un bilan très négatif donc. Et depuis Kyoto, que s'est-il passé dans ces conférences ?
Alors, sans attendre 2012, d'autres conférences ont étendu les objectifs à une réduction des émissions de l'ordre de 25 à 45%. Donc ça, c'est selon les pays. D'ici 2020, mais au vu des premiers résultats et des réserves émises par les pays qui s'y sont engagés, c'est plutôt mal parti. Hein. En 2009, le sommet de Copenhague avait également suscité quelques espoirs, vite déçus. Alors, c'était des accords non contraignants, avec pas de date butoir, etc.
Mais dans ces conditions, que peut-on espérer de la COP21 à Paris ?
On ne sait jamais, hein, peut-être qu'un jour, pourquoi pas en 2015, les mobilisations citoyennes arrivent à exercer une influence suffisante sur les discussions pour obtenir des engagements concrets et puis peut-être radicaux, tout ce qui est nécessaire, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, les mobilisations sont toujours restées ponctuelles, en partie parce que les mouvements écolos et citoyens sont plutôt divisés. D'un côté, il y a ceux qui œuvrent avec le système parce que, voilà, ils disent que l'urgence le nécessite, on va y arriver. On n'a pas le temps de s'occuper du système. Et puis de l'autre, il y a ceux qui disent qu'on ne réglera pas le problème du climat sans changer le système qui en est la cause. À Copenhague, par exemple, ces deux mondes étaient présents en in et en off de la conférence.
Et où se situe attaque, in ou off?
Alors, généralement, voilà, du côté des Khmer Verts, on va dire non. Attaque a adopté le mot d'ordre « changeons le système, pas le climat » et travaille à établir un lien entre les activités économiques polluantes, financières, prédatrices, destructrices, hégémoniques, et le changement climatique. Il y a une lueur d'espoir au niveau mondial si on regarde l'exceptionnelle mobilisation à l'occasion de la Marche pour le climat le 21 septembre dernier. À New York, la marche a rassemblé plus d'un demi-million de personnes. C'est la plus grosse manifestation aux États-Unis depuis les années 70.
D'accord, mais dans le même temps, en prenant exemple sur la France, François Hollande s'est rendu du 2 au 4 novembre au Canada.
Ouais, et même plus symptomatiquement en Alberta, devenu le Texas canadien à cause de ses vastes exploitations de sable bitumineux, dont l'exploitation est une horreur écologique, hein, mais où nos entreprises Total, Veolia, Suez ont de gros contrats, hein. Puis il a enchaîné avec l'Australie les 18 et 19 novembre pour, alors je cite, hein, renforcer les liens historiques et les relations économiques avec la participation donc d'une délégation importante d'entreprises françaises. Notre ami la Société Générale en faisait partie, qui soutient donc le monstrueux projet d'extraction et d'exportation de charbon, Alpha Coal, qui comprend donc une gigantesque mine à ciel ouvert dans le bassin de Galilée, une voie ferrée et une expansion portuaire en plein cœur de la Grande Barrière de Corail.
On peut aisément imaginer que les autres chefs d'État font de même, toujours au nom de la sacro-sainte croissance et de l'emploi ou de la compétitivité. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu schizophrènes?
Ah non. Malheureusement, bon, c'est bien plus grave parce que, je rappelle, un schizophrène n'est pas responsable de ses actes.
Hein. Oui. Alors, comment est-ce que ATTAC compte mobiliser les citoyens en vue de la COP21?
Alors bon, peut-être pour commencer, ATTAC n'est pas le seul mouvement engagé dans la mobilisation vers la COP21. La coalition est très large. Bon, ça c'est un point positif. Alors je vais t'en citer quelques-uns. Il y a les Amis de la Terre, Greenpeace, 350.org. Donc ça c'est une ONG américaine pour une limitation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère à 350 parties par million. Il y a aussi le réseau Action Climat, BISI, le Sierra Club, VVF, etc. Mais également, et ça c'est nouveau, des acteurs purs internet comme Havas. Ensuite, d'ici décembre 2015, la coalition lancera ou participera à une série d'initiatives afin de faire grimper la pression et la température à Paris, pour qu'elle soit contenue ailleurs. L'objectif est de mettre en avant des résistances et de montrer les alternatives et mobiliser ceux qui ne se sentent pas concernés par aucun des deux, quoi.
Tu as des exemples à nous donner ?
Alors, concernant les résistances, hein, on a celle contre les grands projets inutiles comme ceux de Notre-Dame-des-Landes ou Sivens, donc on en avait parlé dans l'émission précédente, mais il y a aussi les résistances contre le projet Alpha Coal, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, ATTAC appelle tous ses comités locaux à participer à une action le 6 décembre devant une agence de la Société Générale pour exiger qu'elle cesse de financer un projet qui émettra environ 1,8 milliard de tonnes de dioxyde de carbone en 30 ans. Alors ce 6 décembre, ce sera aussi le lancement officiel de la campagne vers la COP21. On rejoindra le comité local de Nîmes pour cette action. Bon, on en reparle tout à l'heure dans l'agenda militant.
Et en ce qui concerne les alternatives?
Alors par exemple, on a un tandem, hein, alors c'est un tandem de 4 places, c'est particulier, d'Alternatiba, donc qui partira le 5 juin 2015 de Bayonne pour relier Paris pour la COP le 26 septembre. Dans son tour de France, le tandem propose de créer un événement et de mettre en valeur les alternatives à chaque étape. Il sera à Arles les 21 et 22 juin. Nous avons commencé à organiser leur accueil. Bon, je ferai prochainement un appel plus concret à volontaires. Et puis bon, tiens, puisqu'on est spécial copinage, une vélorution organisée par Convibici partira de la place Générale de Gaulle le dimanche 7 décembre à 17h. Donc préparez votre slogan « Plus de vélo, moins de pollution ».
Une dernière question. Récemment, la Chine et les États-Unis viennent de finaliser des engagements en matière de climat et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'était le 11 novembre dernier, je crois. C'est en dehors du cadre de la COP21. Que faut-il en penser ?
Comme toujours, il y a plusieurs lectures. Hein. Une première optimiste, on va dire, puisque c'est précisément là que la conférence de Copenhague avait achoppé. La Chine et les États-Unis attendant que l'autre s'engage avant de s'engager à son tour. Ils ne veulent pas que la COP21 subisse le même échec et négocie en amont de manière à pouvoir conclure un accord en 2015. Voilà, l'autre lecture est plus pessimiste puisque l'engagement signé par la Chine repousse la date butoir de réduction des gaz à effet de serre à 2030 sans étape intermédiaire. Et puis de son côté, Barack Obama est très limité par un congrès républicain et il propose une réduction conséquente mais insuffisante d'ici 2025 et puis surtout qui obligera à de nombreux efforts après cette date.
Ah, ça nous ramène à ta devinette du début, non ?
Eh oui, oui, le défi climatique n'est pas un défi pour les 10 prochaines années, c'est un défi pour le siècle, donc pourquoi se presser, hein ? C'est pour cela, et puis aussi pour insister sur l'urgence, qu'il faut réussir la mobilisation de la COP21. Si on veut avoir une chance de limiter le réchauffement climatique mondial à 2 degrés, quoi, c'est crucial.
À 2 degrés ? Pourquoi 2 degrés ?
Ah, mais ça, c'est la limite haute fixée par le GIEC pour le modèle climatique connu. Au-delà, il prévoit un emballement, un ensemble de phénomènes qui pourraient faire basculer la Terre et son climat vers un état, on va dire, radicalement différent de celui qu'on connaît, avec des répercussions dramatiques sur l'eau, l'agriculture, puis aussi des phénomènes météorologiques violents. Hein.
Comme avoir de la neige à Noël.
Non, ça, c'est du domaine du connu, du normal, quoique...
Un samedi du Moyen-Âge, une sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai tomba par terre du haut des nuages. Ho, 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 madame la sorcière, vous voilà tombée par terre. Ho, 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 sur votre derrière et les quatre fers en l'air. Vous tombez des nues, toutes nues, par où êtes-vous venue ? C'est au trottoir de l'avenue. Vous tombez des nues, sorcière saugrenue. Vous tombez des nues, vous tombez des nues, sur la partie la plus charnue de votre individu, vous tombez des nues. On voulait la livrer aux flammes, cette sorcière qui volait vers le sabbat sur son balai pour l'ascension, quel beau programme. Oh, 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 voilà que la sorcière a fait un grand rond par terre. Oh, 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 quel coup de tonnerre. Il tomba de l'eau à flot et l'eau tombe des nues, toute nue, éteint les flammes des nues et rafraîchit la détenue. L'eau tombe des nues, averse bienvenue. L'eau tombe des nues, l'eau tombe des nues. Et la sorcière, c'est l'avenue, oui, mais dans l'avenue, l'eau tombe de nu. Qu'elle était belle, la sorcière, les présidents du Châtelet, les gendarmes et leurs valets la regardaient dans la lumière. Et un éclair qui brille, c'est vos yeux qui scintillent, et notre cœur pétille. Nous sommes sourds d'amour, nous tombons des nues, elle est nue, oui, mais notre âme est chenue. Nous avons de la retenue. Nous tombons des nues, sorcière saugrenue. Nous tombons des nues, nous tombons des nues. On relaxe la prévenue, elle nous exténue. Nous tombons des nues, et je me tombe des nues. Tu tombes des nues, le monde entier tombe des nues. L'amour est tombé des nues, et vive les femmes nues.
Alors Sylvette, que nous prépare Attaque Pays d'Arles pour ce riant mois de décembre ?
On va commencer par une gentille petite manifestation à Nîmes le samedi 6 décembre devant une agence d'un de nos requins de la finance préférée, la Société Générale. Donc il s'agit d'une action commune, les amis de la Terre, Attaque et Busy, contre le projet Alpha Call. Habillez-vous si possible aux couleurs de la Société Générale, donc pantalon noir, veste rouge ou l'inverse. Hein. Le rendez-vous est fixé à 10h au square de la Bouquerie, donc en bas du boulevard Gambetta. Donc stop Tafta Call, samedi 6 décembre à 10h devant l'agence Société Générale du square de la Bouquerie.
Oui, stop Alpha Call, hein, pas Tafta Call, bien sûr.
C'est un mélange, on est un peu fatigué à Attaque des fois.
Oui, alors ensuite, la réunion plénière ?
Ah ben non, Non, il n'y aura pas de plénière en décembre, c'est comme ça, mais c'est pour la bonne cause. Et vie en lieu et place de notre réunion mensuelle, il y aura l'Assemblée Générale d'Attac Pays d'Arles. Elle se tiendra à la Maison de la Vie Associative le jeudi 11 décembre. Au programme, accueil autour d'un verre à 18h et lecture des rapports et bilans vers 18h30. On y débattra des perspectives et du fonctionnement du comité pour 2015. Et si, comme pour toute Assemblée Générale, seuls ceux qui sont à jour de leur cotisation pour ont voté et ATTAC ne déroge pas à la règle. Nos assemblées sont par contre ouvertes à toutes et à tous et la discussion est libre.
Les curieux sont donc les bienvenus. Et sinon, quels autres rendez-vous ?
Ah bah attends, c'est tout, on arrive en fin d'année là, on verra ce que l'Assemblée Générale aura décidé. On a bien des idées dans les cartons, mais on va garder ça pour plus tard. Donc, à noter dans vos tablettes, la prochaine plénière sera le jeudi 8 janvier de 18h30 à 20h30, toujours à la Maison de la Vie Associative, toujours à Arles, toujours sur le boulevard des Lys.
Et on se retrouvera aussi le 7 janvier sur les ondes de 3DFM.
C'est cela. J'adore les paroles engagées de cette chanson. Donc, Laura, nous arrivons au moment de la devinette. Alors, qui a dit ? Le défi climatique, ce n'est pas un défi pour les 10 prochaines années, c'est un défi pour... Je me suis trompée de phrase. Alors, je reprends. Qui a dit ? Nous devrions intensifier nos efforts pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscale afin que chacun apporte sa juste contribution.
Mais on gagne parfois ce jeu.
Non, je crois pas, hein, c'est fait pour. Alors, c'est Jean-Claude Juncker. Ça vient de son programme de candidature pour la présidence de la Commission européenne. Un nouvel élan pour l'Europe, mon programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement démocratique. Donc ça, c'était le 15 juillet 2014. Vous pouvez vérifier, hein, c'est en fin de la page 7.
Ce qui ne manque pas de sel, puisqu'il est au cœur du scandale de LuxLeaks qui a éclaté le 5 novembre.
Donc, quelques 28 000 pages d'accords fiscaux qui ont fuité montrent l'exil fiscal de plus de 1000 entreprises avec l'approbation des impôts du Luxembourg. Les documents détaillent des accords fiscaux préalables très avantageux, des déclarations fiscales anticipées pour le compte de nombreux clients internationaux, parmi lesquels Apple, Amazon, Ikea, tiens, Dacia. Jean-Claude Jean-Claude Juncker admet que l'évasion fiscale qui permet aux entreprises d'échapper en grande partie à l'impôt ne correspond pas aux normes éthiques et morales généralement admises, hein, c'est pas bien. Mais il rajoute aussitôt que les décisions fiscales anticipées sont une pratique bien établie dans 22 pays de l'Union européenne. La Commission elle-même les a déclarées conformes au droit communautaire dès lors qu'il n'y a pas de discrimination entre les entreprises. Allez hop, c'est pas moral, mais c'est légal, circuler, il n'y a rien à voir. Et tant pis si cette évasion fiscale est payée par les autres, c'est-à-dire par les autres pays, mais aussi et surtout par les autres acteurs, hein, les petites et moyennes entreprises et les ménages. Alors, juste à propos, la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, hein, alors c'est les membres, c'est le CADTM, Survie, Oxfam, le CCFD, Terre Solidaire et d'autres, donc dont Attac, publie justement une étude sur les premiers chiffres rendus publics par les banques françaises, donc c'est grâce à la loi bancaire de 2013. L'étude révèle les 7 péchés paradisiaques que ces premières informations permettent d'établir. Toutes les infos donc sur le site d'Attac France ou sur celui de la plateforme donc stopparadisfiscaux.fr.
Eh bien, l'émission est terminée. Merci Sylvie. Elle sera rediffusée jeudi 18 décembre à 20h et disponible en podcast sur le site de 3DFM. Il ne nous reste plus qu'à nous dire au revoir. On se retrouve sur les ondes le mercredi 7 janvier. Au revoir Sylvie.
Attends, et alors, et joyeux Noël, non?
Eh oui, joyeux Noël.
Au revoir Laurent, à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.
C'était Un autre monde possible. Le rendez-vous mensuel d'Attac Pays d'Arles. On se retrouve le mois prochain, le premier mercredi du mois, de 18h10 à 18h40, sur 3DFM. À bientôt.
Bon, voilà. C'est bon.
Bon, c'est bon quand même.